Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Professionnalisme, service et surtout sainteté de vie, telles sont, selon le pape François, les qualités que doivent avoir les membres de la Curie romaine. À 3 jours de Noël, le Saint-Père a rencontré ce samedi le gouvernement central de l'Église pour la cérémonie traditionnelle d'échange de vœux. En Haïti, l'État n'assure pas un minimum de service à la population et les structures claniques font obstacle à l'exercice de la démocratie. Dans leur message de Noël, les évêques brossent un tableau alarmant de la situation et appellent chacun a ses responsabilités. À Bethléem, une maternité hors du commun accueille des femmes de toutes religions et origines. Elle apparaît comme un havre de paix et de sécurité. Vous entendrez le directeur de l'hôpital de la Sainte Famille. Et en fin d'émission, ne manquez pas nos rendez-vous hebdomadaires avec les livres pour Dieu et le commentaire de l'Évangile. Pour son premier Noël d'évêque de Rome, le pape François a invité les membres de la Curie romaine à vivre cette période liturgique en étant spirituellement proche de Saint Joseph. Saint Joseph si silencieux et si nécessaire auprès de la Vierge. Le souverain pontife s'exprimait dans le cadre de l'échange traditionnel des vœux dans la grande salle clémentine du palais pontifical. Cet exercice de fin d'année est toujours très attendu. Le pape François n'a pas annoncé de réforme ni son programme à venir. Il n'a pas évoqué les orientations doctrinales de l'Église et les défis qu'elle doit relever dans la société contemporaine. Il a préféré décrire le portrait robot d'un bon collaborateur au sein de la Curie romaine, qui, dit-il, ne doit pas apparaître comme une pesante douane bureaucratique d'inspection et d'inquisition, et encore moins comme un lieu de bavardage. Xavier Sartre.
Plus qu'un portrait robot, c'est un portrait en creux que le pape François a dessiné. Abordant le professionnalisme, il souligne qu'il faut qu'il y ait dès le départ une bonne base, même si le professionnalisme se forme et s'acquiert en partie. Mais attention à le perdre, ou à ne pas en avoir, car dans ce cas, lentement, on glisse vers le terrain de la médiocrité. Les dossiers deviennent des rapports de clichés et des communications sans levain de vie, incapables de produire de larges horizons. La charge contre la bureaucratie ne s'arrête pas là, et le pape n'hésite pas à relever que quand l'attitude n'est pas celle du service des églises particulières et de leurs évêques, alors la structure de la curie grandit comme une pesante douane bureaucratique d'inspection et d'inquisition qui ne permet pas l'action du Saint-Esprit et la croissance du peuple de Dieu. Mais un bon membre de la curie ne saurait l'être que s'il est saint. La sainteté signifie donc pour le pape vie immergée dans l'esprit, ouverture du cœur à Dieu, prière constante, humilité profonde, charité fraternelle dans les relations avec les collègues. Elle signifie aussi apostolat, service pastoral discret, fidèle, accompli avec zèle, au contact direct du peuple de Dieu. Ceci est indispensable pour un prêtre. Le pape ne saurait être plus clair de ce qu'il attend de ses collaborateurs, à qui il réclame qu'ils fassent objection de conscience au bavardage. Cette loi non écrite de notre environnement qui abîme la qualité des personnes, du travail et de l'environnement. Les voilà tous prévenus.
Dans la soirée de ce samedi, le pape argentin s'est rendu au chevet d'enfants malades à l'hôpital pédiatrique du Saint-Siège, Bambino Gesù. Et à Bethléem, à 800 mètres de la basilique de la Nativité, l'hôpital de la Sainte Famille, dirigé et financé par l'Ordre de Malte, a fêté son 60 000e accouchement. Le bébé est une petite fille et elle s'appelle Mariam. Ancien hôpital général français devenu maternité, l'hôpital de la Sainte Famille a été ouvert en 1990. Cette maternité est le seul établissement de la région qui possède un service de soins intensifs en néonatologie. Elle joue localement un rôle très important, surtout pour les grossesses à risque et pour les prématurés. Dans un environnement marqué par la pauvreté, le chômage et l'insalubrité, où la mortalité infantile est 4 fois plus élevée qu'en Israël, les cas sociaux sont pris en charge par l'Ordre de Malte. Francesca Sabatinelli a rencontré le directeur de l'hôpital de la Sainte Famille, Dominique Jacquemin.
Dans cet hôpital, l'activité est donc dirigée principalement pour les accouchements, pour les naissances et également pour les prématurés, puisqu'on a un service de soins intensifs pour les prématurés qui est le plus moderne de toute la Palestine, on peut le dire en toute modestie. Et également, donc, nous avons des activités à l'extérieur de l'hôpital, puisque nous avons une clinique mobile sous forme d'un véhicule qui va dans le désert de Judée pour s'occuper des villages les plus défavorisés, car il y a des Bédouins qui sont dans ce désert et qui ont peu d'accès aux soins. Donc il faut aller vers eux pour les aider, pour qu'ils puissent bénéficier de notre aide.
C'est le seul hôpital dans la Cisjordanie qui offre des services si importants pour femmes et pour les enfants.
Alors il y a d'autres hôpitaux qui peuvent délivrer les mêmes soins, mais notre hôpital est le plus important dans ce domaine. Et c'est également le plus moderne, celui qui met les meilleurs services, principalement pour nous, pour les populations les plus démunies de Palestine.
Vous êtes au service des pauvres.
Tout à fait, et c'est conforme à l'idéal de l'ordre de Malte, puisque nous sommes depuis 900 ans maintenant en Terre Sainte, un ordre hospitalier, donc tourné vers les malades, et également pour le service des pauvres.
Quelles sont les difficultés que vous devez affronter ?
Alors les principales difficultés pour nous, c'est bien sûr les difficultés que traverse toute la population palestinienne, difficultés de circulation, contraintes dues parfois à l'absence, dirons-nous, de liberté. Les gens ici souffrent d'un manque de liberté, ils ne peuvent pas se déplacer, ils ne peuvent pas vivre comme on vit normalement dans d'autres pays en raison de la crise entre la Palestine et Israël. Et donc il y a beaucoup de contraintes au niveau de la liberté de circulation et également des libertés économiques. Puisque pour se procurer certains produits, il faut franchir la frontière qui est très surveillée et donc parfois cela pose des problèmes.
Quels sont votre projet dans le futur ?
Alors, nous voulons bien sûr continuer à améliorer la qualité de notre hôpital, la qualité des soins qui sont dispensés. Pour cela, nous avons des coopérations, bien sûr, avec des hôpitaux en Europe, dans différents pays européens, également aux États-Unis. Et maintenant, il nous reste donc à moderniser notre bloc opératoire pour qu'il puisse correspondre à des normes modernes.
Est-ce qu'on peut parler de chiffres ?
Oui, bien sûr. Donc, l'hôpital, c'est en chiffres environ 20 000 consultations par an, 3 200 accouchements en moyenne chaque année. Et s'agissant des enfants prématurés, nous avons 450 enfants prématurés qui sont pris en charge ici dans cet hôpital annuellement.
L'hôpital de la Sainte Famille, c'est l'hôpital qui s'occupe des cas très très graves.
Oui, effectivement, parce que compte tenu du haut niveau de qualification de notre hôpital, nous avons un accord avec le gouvernement palestinien. Et les hôpitaux palestiniens nous adressent les cas les plus graves qu'ils ne peuvent pas traiter à leur niveau. Donc tous les cas difficiles sont adressés à notre hôpital. Il en va de même pour les camps de réfugiés qui sont gérés par les Nations Unies, pour que les cas difficiles, les patients qui présentent des cas graves, nous soient envoyés ici pour être traités dans notre hôpital. Les barrages culturels, il y en a forcément. Mais ici, c'est quand même un endroit où les populations ont l'habitude de cohabiter, de coexister depuis des siècles. Donc les gens, à partir du moment où on ne met pas des contraintes trop fortes, sont capables de cohabiter, de coexister et de travailler ensemble. C'est d'ailleurs ce que nous avons ici à l'hôpital, puisque nous avons des employés de toutes les confessions et qui travaillent en bonne harmonie au service de la population.
Dominique Jacquemin, directeur de l'hôpital de la Sainte Famille à Bethléem. Pourquoi le monde nous a-t-il oubliés ? C'est l'appel lancé par les réfugiés syriens et relayé par la Fondation Pontificale AED, aide à l'Église en détresse. Selon le père Alain Ba, responsable des projets au Moyen-Orient pour l'AED, les perspectives pour 2014 sont sombres. La faim est le plus grand danger auquel les Syriens font face. 75% d'entre eux auront besoin d'une aide humanitaire. Or, il est difficile d'organiser des activités caritatives en Syrie et dans les pays voisins. Beaucoup de localités sont inaccessibles. L'AED renouvelle son opération Cadeau de Noël messager pour aider les familles, en particulier les chrétiens réfugiés ou menacés. En Haïti, la conférence des évêques catholiques lance un appel à la conversion radicale face aux drames sociopolitiques que connaît ce pays et à la méfiance et à l'exclusion qui paralysent le présent et menacent l'avenir. Déjà traversé par une grave crise politique et fragilisé par une situation économique et sociale extrêmement difficile, Haïti ne s'est jamais remis du séisme dévastateur de 2010. On assiste aujourd'hui à une remontée des discours revendicatifs. Dans leur message de Noël, les évêques évoquent en détail le drame de ce peuple crucifié dans son histoire. Il cite les luttes fratricides interminables pour le pouvoir, le chaos et les inégalités, la dégradation morale et la corruption, l'émigration et le gaspillage dans les administrations, les nombreuses personnes en détresse et sans protection. Pour les évêques catholiques, il est urgent de résoudre les contentieux et de rebâtir le pays. Ils interpellent toutes les catégories de la nation, à commencer par les dirigeants politiques qui doivent se montrer intègres et crédibles, sans oublier les chrétiens, appelés à transformer ces conditions déshumanisantes et aliénantes. Le pape François a nommé nonce apostolique au Soudan du Sud un prélat américain, Mgr Charles Daniel Balvo, actuellement nonce apostolique au Kenya. Le représentant du Saint-Siège entamera sa mission alors que ce jeune pays est au bord de la guerre civile. Des combats sanglants opposent l'armée du Soudan du Sud et les partisans de l'ancien vice-président Riek Machar, accusé d'avoir tenté de renverser le président Salva Kiir. Ces événements qui ont ravivé les rivalités interethniques suscitent une vive inquiétude au sein de la communauté internationale. Les États-Unis ont dépêché sur place leur envoyé spécial pour la région. Dans quelques jours, nous célébrerons la nuit de Noël où le Sauveur vient au monde. Cette semaine, nous vous proposons donc un livre sur ce que dit la Bible sur la nuit. L'auteur, François Létang, prêtre de l'Institut du Chemin Neuf, enseigne l'exégèse à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon. Interrogé par Catherine Aubin, il va nous guider dans le monde biblique de la nuit à travers une présentation de ce que disent les livres de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse.
François Létang, un petit livre que vous avez écrit sur la nuit dans la Bible. Est-ce que finalement, tout ne commence pas la nuit ?
En effet, c'est très impressionnant de remarquer que la Bible commence par cette première parole, que la lumière soit, mais c'est dans la nuit que Dieu commence sa création et que tous les grands passages de l'histoire du salut se font dans la nuit, que ce soit la sortie d'Égypte, que ce soit donc la naissance de Jésus, que nous allons bientôt fêter, que ce soit la Pâque, parce que c'est vraiment la résurrection elle-même a lieu dans la nuit. Et la nuit est un thème qui parcourt toute la Bible jusqu'au son dernier livre, puisque dans l'Apocalypse, vers les derniers chapitres, on aura cette nouvelle étonnante, il n'y aura plus de nuit. Mais jusque-là, la Bible nous emmène nuit et jour pour découvrir à quel point Dieu est présent dans la nuit, à quel point Dieu agit, Dieu se révèle, Dieu nous accompagne aussi dans nos nuits.
Dans l'Apocalypse, il n'y aura plus de nuit. Pourquoi ? Quel symbole porte la nuit ?
La nuit, d'un point de vue spirituel, ça peut être aussi cette dimension qui s'oppose à la lumière que Dieu porte. Et donc dans l'Apocalypse, avec ce combat très fort entre les forces du mal et les forces de vie que porte Dieu, la fin de la nuit est la fin de tout ce qui, finalement, nous laisse encore dans un entre-deux, dans un chemin de temps, alors que le règne de Dieu qui va s'établir, on est dans le temps de l'Avent pour l'instant, qui est dans cette durée. Et donc là, il y a quelque chose qui indique que le rythme des jours et des nuits est fini et que désormais, il n'y a plus que cette pleine lumière qui est celle de l'agneau. Mais dans l'entre-deux, là où nous sommes, entre la résurrection et la parousie, il y a cette grâce d'accueillir la lumière au cœur même de la nuit, car Dieu passe aujourd'hui dans nos nuits.
La nuit parcourt la Bible. Qu'est-ce qui se passe la nuit finalement ?
D'abord, la nuit, c'est un lieu inquiétant. Il faut bien reconnaître que la nuit, on ne sait pas trop ce qui se passe, on n'y voit pas, et tous les bruits prennent une dimension étonnante. Donc, c'est le monde de la peur, la nuit. Et il y a quelque chose qui vient nous dire dans la Bible, là où on pourrait avoir peur, là même, Dieu vient, Dieu se manifeste. Mais c'est d'abord un lieu inquiétant, parce que la Bible nous parle aussi de ces fauves qui rôdent dans la nuit, de ces armées qui assiègent de nuit, d'où l'importance des veilleurs. Et pourtant, dans cette nuit, dans cette réalité où on pourrait avoir peur, c'est là que Dieu vient, c'est là que Dieu dit, là où il y a finalement cet espace de crainte, Dieu se manifeste, Dieu se révèle, parfois par des rêves, parfois par des apparitions, Dieu est là, dans la nuit, alors même que la nuit pourrait être ce lieu de grande inquiétude, ce lieu de fragilité, ce lieu de peur.
Nous allons fêter Noël dans quelques jours, et c'est la nuit que vient le Sauveur. Douce nuit, sainte nuit, dites-nous quelque chose.
Dans la nuit, c'est justement quelque chose qui au départ est caché. Il y a l'étoile qui guide les mages, il y a l'ange qui appelle les bergers, mais cette nuit, elle nous rappelle aussi cette venue au jour qui se fait dans la discrétion. C'est tout petit, ça naît, et cette naissance, elle est enveloppée de douceur, enveloppée dans cette nuit de Noël, cette nuit qui est promesse en même temps. Il y a quelque chose qui est en train de naître, quelque chose qui pointe déjà, mais ça reste l'ordre de l'avenir, de cette promesse, de ce cadeau étonnant, mais qui est comme recouvert dans un manteau de douceur, parce que la nuit de Noël, je crois, est sous le signe de la douceur. La lumière, elle a du sens sur ce fond qu'est la nuit.
Et ce qui est étonnant, c'est que justement à Noël, la nuit est comme personnalisée, on lui parle. Comment expliquez-vous qu'on ait besoin de parler à la nuit ?
C'est vrai qu'à la fois à Noël et à Pâques, on parle à la nuit parce que c'est finalement comme ce berceau pour la révélation de Dieu, ce berceau pour que la lumière donne et encore plus d'éclat. Et donc il y a quelque chose qui dit, là où apparemment on pourrait avoir peur, que ce soit la mort, que ce soit même la naissance, parce qu'il y a comme une inquiétude, il y a quelque chose au contraire de la douceur presque maternelle de Dieu qui vient la nuit, cette nuit qui enveloppe de son manteau tous les êtres et qui leur permet d'aller vers le jour nouveau dans la confiance.
Le père François Létang de l'Institut du Chemin Neuf. Et c'est l'heure de retrouver le père Pascal Montavi pour le commentaire de l'évangile de ce 22 décembre, le quatrième dimanche de l'Avent. Et c'est l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 1er, versets 18 à 24, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph.
Quelques jours avant Noël, l'évangile de ce dimanche nous invite à méditer sur la figure de Joseph. Joseph est un homme juste, docile à l'Esprit Saint. Il se laisse déranger dans ses propres plans pour accueillir la volonté de Dieu. Voyons cela plus en détail. Tout d'abord, apprenant que Marie était enceinte, il est dit que Joseph ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Joseph est face à l'incompréhensible. Il connaît Marie et nul doute que face à celle qui est l'Immaculée Conception, il ne pouvait être qu'émerveillé par tant de pureté et de sainteté. Pressentait-il déjà que ce que vivait Marie était d'ordre divin? Il est possible de le penser, mais l'Évangile ne le dit pas. Cette ignorance de la part de Joseph ne fait que renforcer la beauté de son attitude. Il ne comprend pas, mais refuse de livrer au jugement public celle qui serait considérée comme une pécheresse. En cela, Joseph nous apprend la bienveillance à l'égard d'autrui. Joseph est juste, et parce qu'il est juste, il laisse Dieu juger chacun. En même temps, il garde son cœur ouvert à la parole que le Seigneur va bientôt lui adresser. L'ange du Seigneur lui apparaît en songe et lui dit « Joseph, fils de David ». Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'on pourrait penser que l'ange du Seigneur aurait pu apparaître à Joseph avant que ce dernier ne se rende compte que Marie était enceinte. Mais le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. C'est lui qui conduit l'histoire et parfois celle-ci nous déroute. Dans cette parole adressée à Joseph, le Seigneur montre d'abord qu'il le connaît personnellement. Il est fils de David. Joseph n'est donc pas seulement là pour aider Marie. Dieu le connaît, l'aime et l'appelle à participer au plan de salut pour les hommes. Cette invitation de l'ange « Ne crains pas de prendre Marie chez toi » est prophétique. Elle s'adresse à tous ceux qui, comme Joseph, décident de suivre Dieu et d'obéir à ses plans. Marie donne Jésus au monde, mais le Seigneur donne aussi Marie aux hommes afin qu'elle intercède pour eux. Au Golgotha, Jésus dira à Jean « Voici ta mère ». Que ce soit avec Joseph ou avec Jean, Marie est donnée comme épouse ou comme mère, car elle a reçu cette grâce immense de conduire les hommes à Dieu. Enfin, l'ange du Seigneur dit à Joseph d'appeler le nouveau-né Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Cet avènement réalise la prophétie d'Isaïe disant que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Ce nouveau-né s'appelle donc à la fois « Sauveur » et « Dieu avec nous ». En d'autres termes, c'est en devenant l'un de nous que le Seigneur opère le salut. Dieu s'est fait proche des hommes en se faisant chair. Notre salut ne vient pas d'un Dieu lointain qui déciderait, du haut de sa transcendance, de faire miséricorde. Le salut des hommes vient d'un Dieu qui est avec nous, jour après jour, pour nous aider à le découvrir et à l'aimer. Durant ces quelques jours qui nous séparent de Noël, prions pour que nous aussi, comme Joseph, nous soyons trouvés obéissants à la parole de Dieu. Au-delà des apparences, et en posant l'acte de foi de celui qui ne comprend pas tout, soyons nous-mêmes dociles à l'Esprit Saint qui nous dirige vers le Père.
C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Mais je vous invite également à nous retrouver sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican, en français.